La terre. Le feu. L'air. L'eau. Quand j'étais enfant, mon père, l'avatar Aang, me raconta comment ses amis et lui avaient héroïquement mis fin à la guerre. L'avatar Aang et Zuko, le seigneur du feu, réunirent les tribus de la Nation du Feu en une République des Nations. Une société dans laquelle maîtres et profanes du monde entier pourraient vivre et prospérer ensemble dans la paix et l'harmonie. Ils baptisèrent la capitale de ce territoire la Cité de la République. L'avatar Aang a accompli beaucoup de choses formidables dans sa vie. Malheureusement, il a été appelé vers un autre monde. Et à l'instar du cycle des saisons, le cycle de l'avatar recommence.
Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-pod consacré à l'intégrale de la légende de Korra. Et donc avec moi, il y a Delphine pour en parler. Je suis Nico, je rappelle. Nous sommes les deux seuls à avoir eu le bon goût de regarder cette série dérivée de Avatar, le dernier maître de l'air. Bonjour.
Bonjour. En même temps, on était déjà les deux seuls à avoir vu Avatar. Hein, donc.
Voilà. Non, je crois que Max, il en avait regardé un peu. Bah Max a vu le film Avatar.
Oui.
Bah, il est bizarre, Max. Hein. Au lieu de regarder la bonne série, il a regardé le mauvais film. En soi, c'est pas un mauvais film. Le problème, c'est qu'il condense les 20 épisodes de la saison 1 en 1h40, quoi. Donc.
Oui, peu rapide.
T'enchaînes les scènes, hein. Donc c'est. Il y a pire, hein, comme film. Attention, hein. Comme adaptation de dessin animé, il y a pire. Il y a Dragon Ball Evolution, hein. Mais. Il y a Death Note. Mm-hmm. À Netflix, Death Note. Bah, tant qu'il touche pas à Korra, ça va. C'est bien. Que ça reste comme ça. Juste une série animée. De 52 épisodes, diffusés donc sur Nickelodeon très difficilement, parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans la diffusion. Mais d'un autre côté, c'est Nickelodeon. S'ils font pas n'importe quoi dans la diffusion, c'est pas Nickelodeon. Et oui, parce que partir de la saison 3, c'est parti en cacahuète, avec une diffusion en premier sur Internet, puis après, c'était rediffusé sur la chaîne. Enfin bref, ça a été un massacre. Presque autant que les Tortues Ninja. Et donc cette série donc a été créée par Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko, hein, qui était déjà derrière Avatar.
Oui.
Voilà. Et donc on retrouve plein de super mondes au casting vocal américain, hein, Janet Varney, J.K. Simmons, David Faustino, etc. Daniel Dekim hein, également, faut pas l'oublier. Ah oui.
Oui.
Mon copain.
Ouais.
Bah,
oui.
Il faisait quand même Hiroshi Sato. Hein. Bon, pas de bol, hein, c'est pas un grand rôle.
Mais... oui, pas vraiment, non.
Voilà. Et puis du côté français, on retrouve Lutèce Ragnaud, Olivier Martret, Alexandre Nguyen, Jessica Monceau, Guy Chapelier. Ouais, la voix de Kid dans K2000, quoi. Donc c'est bien la preuve que c'est une bonne série.
J'aime bien comment tu te bases.
Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai que c'est... Des deux côtés, c'est un bon casting, quoi, vocal.
Oui, oui, non, c'est sûr.
Je veux dire, tu rentres dans la série parce que c'est pas une mauvaise version française, donc tu sors pas de à dire un homme, ils sont à côté de la plaque, ou le mec, il est là pour le chèque, il en a rien à foutre de la série, tu vois, ou des trucs comme ça.
Donc, non, là, pour le coup, le doublage est très réussi.
Oui, donc c'est agréable. Et on a eu du mal, puisqu'on a eu droit à la première saison il y a très 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 longtemps. Et il a fallu attendre donc l'été 2017 pour voir les saisons 2 à 4. Donc oui, c'était la rentrée de septembre 2013, la saison 1.
Ah oui, quand même.
Ah oui, quasiment 4 ans, il a fallu attendre.
C'est...
Mais du coup, on a eu les 3 saisons en 3 semaines, quoi, en fait, sur France 4, au rythme de 3 épisodes par jour.
Ouais, c'était un peu too much, je trouve. Enfin, je sais pas, pour une série qu'il a fallu attendre aussi longtemps, je sais pas, ils auraient pu avoir un rythme un peu moins condensé, quoi, je sais pas. Non? Non, t'étais content d'en avoir 3 par jour?
Oui et non, peut-être 2 par jour, ça aurait fait 10 par semaine, ça pouvait passer, quoi. Enfin, après, moi, c'était de la rediffusion, donc forcément, c'était moins... L'ayant vu en VO à l'époque, voilà, c'était moins... Je sais pas, j'arrive beaucoup plus facilement à enchaîner les épisodes sur de la rediffusion qu'en inédit.
Oui, c'est pas pareil, parce que tu connais aussi, donc c'est plus pour revoir des trucs que pour voir vraiment, donc...
Oui, et puis après, il y a des intrigues qui sont pas forcément top. Genre le début de la saison 2, je trouvais que c'était un peu poussif quand même, donc j'étais bien content qu'en deux jours ça soit expédié au lieu de passer un mois et demi dessus aux États-Unis, quoi. Donc tu vois, voilà. Et donc bon, donc pour le pitch de la série, hein, si vous l'avez pas vu, il vaudrait peut-être mieux pas suivre à ce mini-pod, je vous préviens quand même.
Oui, on va spoiler, hein, clairement.
Oui. Et non, c'était en fait 2012, c'était même pas 2013, je me suis trompé d'une année, hein, pour la diffusion française, mais bon, voilà. Donc on suit les aventures de Korra, nouvel avatar, fraîchement né, 70 ans après, Aang, qui était donc l'avatar qu'on a suivi dans Avatar.
Oui. Ça y est, tu y arrives.
Voilà. Donc entre temps, il a réussi à unir les quatre nations, plus ou moins, avec, la cité de la République en son centre, qui donc se veut le lieu de rencontre des quatre nations, quoi, une sorte de cité indépendante.
Espèce de conseil neutre, voilà, indépendant, qui permet aussi aux humains d'avoir un peu leur mot à dire, enfin entre guillemets.
Voilà, et une ville cosmopolite, voilà. Waouh, j'utilise de ces termes.
Oui, c'était magnifique.
Et avec bien sûr du progrès technique, puisqu'on est dans une sorte d'équivalent, on va dire, de début du XXe siècle, par rapport à ce qu'on connaissait en termes techniques. Voilà, ils ont des voitures. Bon, après, ils ont des super méca robots, qu'on n'a pas encore inventés, même en 2017. mais voilà, t'es dans une sorte de début du XXe siècle, un peu steampunk, et voilà, tu changes complètement l'ambiance, et j'ai trouvé déjà que de base c'était une bonne idée d'avoir fait un tel time jump, quoi, de 70 ans par rapport à la première série.
Oui.
Ce qui fait que du coup, bah, tu te débarrasses du fait de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ça, la série ne devient pas une suite des aventures de la bande à Aang, quoi. Donc Korra peut se développer par elle-même, même si certains personnages font leur retour dans la.
Oui, même si t'as des caméos et tout ça. Oui, voilà, t'as des caméos, etc. Ça te fait toujours plaisir de revoir les anciens, mais comme tu dis, ils ont 80 ans, donc.
Ouais, voilà, ils ont eu toute leur vie. C'est comme là, on l'évoquait dans Teen Wolf. S'ils font un spin-off qui se passe tout de suite là, bah ça ferait chier parce qu'en fait tu veux savoir la suite des aventures de Scott et ses amis.
Bah oui, c'est ça le truc. Si ils avaient fait ça genre 2-3 ans plus tard, tu te dis ouais, enfin on s'en fout, vas-y. Tu t'en foutrais des nouveaux, tu voudrais juste voir les aventures des autres que tu connais. Donc ouais, non, je pense que c'était une bonne idée d'avoir fait un tel time jump. Franchement.
Voilà, ça, comme ça tu changes complètement l'ambiance, tu changes complètement l'environnement, hein, puisque tu passes de trucs assez médiévaux à un truc beaucoup plus moderne.
C'est ça, et puis bon, c'est un nouvel univers, à la base, la paix elle est revenue, tout est censé aller bien, bon, t'as un nouvel avatar.
Qui inversement à Aang contrôle trois éléments et donc cherche à contrôler le quatrième, là où Aang en contrôlait qu'un seul.
Et essayer devait découvrir les trois autres, ouais.
Voilà. Ouais. Donc tu changes aussi la dynamique puisque finalement Avatar c'était chaque saison la découverte d'un nouvel élément. Là, elle les maîtrise tous en fin de saison 1, donc tu abordes la thématique de l'Avatar de façon différente également. Donc oui, c'était très intelligent alors qu'il aurait été facile de capitaliser sur la première série. Bon, sauf que ça aurait fait mourir Aang à 15 ans, quoi. Ça aurait été dégueulasse. Yes. Si tu faisais un nouvel avatar 3 ans après.
Oui, non, c'était un peu limite. Le pauvre attend quand même, quoi. Quand même. Par contre, ce que j'ai trouvé étrange, par contre, c'est que bon, enfin, dans Avatar, on avait quand même dû suivre donc une saison par maîtrise, soyons honnêtes, hein. Et on avait quand même remarqué qu'il avait énormément de mal à maîtriser la terre parce que c'était l'opposé de l'air, vu que lui c'était un maître de l'air.
Le feu.
Et hein?
C'était le feu qu'il avait du mal à maîtriser.
Ah bon?
Oui, enfin la terre aussi, il a eu du mal. Oui, il a eu du mal à maîtriser tous les éléments.
Oui, mais non, dans mes souvenirs, Toph, elle lui. Oui, mais
qu'il faut qu'il fasse appel à sa colère, etc. Alors
le feu, c'était voilà, mais le feu, c'était différent. Voilà, c'était une histoire de peur, d'avoir peur de faire du mal, alors que justement la terre, il avait vraiment du mal à la maîtriser parce que c'était l'opposé de l'air et que donc c'était totalement l'inverse de ce qu'il devait faire quand il maîtrisait l'air. Donc tu te disais, bah Korra, logiquement, celui qu'elle aurait eu le plus de mal à maîtriser, ça aurait dû être le feu, et finalement c'est l'air.
Oui, mais d'un autre côté, elle a pas de maître de l'air. Donc, il y a plus de maître de l'air à part Tenzin, le petit-fils, enfin la petite famille de Aang, quoi. Et puis apparemment, du fait qu'il fait partie du Conseil de la Cité de la République, tu te retrouves avec donc Tenzin qui a des affaires politiques et tout ça, et tu démarres donc au premier épisode où ça y est, je peux enfin avoir droit à mon entraînement de l'air, quoi. Tu vois.
J'avoue.
Et qu'elle s'impose de force, parce que finalement, oui, mais tu contrôles pas encore totalement les trois autres éléments, tatati, tatata. Attends, elle fout la pâtée à tout le monde en jonglant d'un élément à l'autre, c'est bon, quoi. Et donc, voilà, tu démarres la saison 1 où elle débarque un peu de force dans la Cité de la République, et elle découvre cette Cité de la République, où finalement, ben, tu commences à ressentir des tensions entre les humains et les différents maîtres qui habitent là. Et donc, un être mystérieux se prétend vouloir l'égalité entre tous et donc faire disparaître la maîtrise, hein, quel que soit l'élément, hein, c'est ce fameux Amon. Et en même temps, bon, ben, elle découvre les joies des compétitions sportives et se fait des nouveaux amis avec Mako et Bolin.
Oui.
Et un peu plus tard, Asami qui l'écrase à leur scooter.
Aussi.
Ce qui est très bizarre. Tu vois là, tu te dis, oui, c'était une technique de rencontre assez intéressante. Tu rentres dedans en scooter. Mais, et donc voilà. Et donc toute cette première saison repose, bah, sur la première partie avec la découverte, donc, des, voilà, de la compétition. J'ai un trou là sur le nom.
De, le nom de quoi? De la, la ligue? Ouais.
Voilà, la ligue des maîtres.
La ligue
voilà.
des maîtres, tout simple. Voilà.
C'est... Oui, je sais que c'est, elle fait partie de l'équipe des furets de feu.
Voilà! Dans la ligue des maîtres!
Et c'est vrai que tu te dis sur ces premiers épisodes, tu fais, ouais, super, mais j'ai pas envie de la voir, devenir la nouvelle Mbappé du coin, quoi, enfin. Heureusement qu'il y a toute cette intrigue sous-jacente autour de Amon qui fait que t'as envie de rester parce que tu te dis ouais super surtout qu'en plus le plus spectaculaire dans le lot c'est finalement la maîtrise de la terre quoi avec tu tapes du pied les rondins de pierre là se soulèvent et tu les balances et tout je trouve que c'est beaucoup plus spectaculaire que les jeux les vagues d'eau ou de flammes, quoi.
Oui, bah oui, mais bon, d'un côté, les trois peuvent faire du mal, hein. Ah non, par contre, moi non plus. T'as les règles, j'ai...
Avec les trois zones, turcules, et machin, ça fait égalité, c'est que quoi?
Et puis alors, c'était encore plus compliqué quand ils se battent contre les types qui s'en foutent des règles, là, tu fais, ok.
Ah non, mais il y a un moment, je sais plus quelle équipe, elle se retrouve qualifiée alors que les trois, ils sont tombés, et je fais, pourquoi il y a match nul, là? C'est quoi ces règles? C'est du Camoulox ou quoi, ce jeu?
Voilà. C'est un jeu inventé par les scénaristes que seuls eux comprennent, en fait.
Non, oui, alors, soit c'était le scénariste qui avait pas trop bien compris les règles, hein, puisque bon, c'est pas les mêmes scénaristes sur chaque épisode. Mais ouais, j'aimerais bien avoir peut-être un site internet qui explique en précision, de façon précise les règles de ce jeu, quoi. Mais voilà. Et donc après, tu rentres sur la deuxième partie de saison 1 où ben là, c'est vraiment autour de Amon. Tu laisses tomber la Ligue des Maîtres. De toute façon, le tournoi est terminé. Hein, et puis l'autre, il a un peu bousillé la reine, hein, tant qu'à faire. Donc. Et est-ce que c'était bien maîtrisé pour toi?
Hein? Pourquoi tu parles de ça? Hein, la reine, elle est pas bousillée, enfin, hein?
Ouais, la reine en soi, elle est pas, la reine, en un seul mot, hein, pas la reine.
Ah
la reine.
Oui!
Ah. Et là où il y a le jeu, tu sais, il pète oui, un oui, peu non, mais oui. Les matchs.
Oui, non, mais oui, ça va, oui, oh, ça va. Le stade, si tu veux, bon.
Voilà. La reine de combat, quoi.
Oui. Hein, voilà.
Pas la reine de la terre.
Oui, bah oui, mais ça prête à confusion, excuse-moi.
Oui, donc bah, il fallait quand même le temps qu'ils reconstruisent un peu, donc ils pouvaient pas tout de suite refaire des matchs, on va dire. Donc
ben
on s'occupe du problème de Amon, qui donc impose l'égalitarisme en privant les maîtres de leur maîtrise.
Ben c'est flippant quand même, attends, ils touchent les gens et pouf, ils ont plus de pouvoir.
Bah c'est surtout que tu sais pas trop qui c'est quoi, t'arrives pas à jongler sur qui c'est, puis tu t'orientes très vite sur le conseiller et puis tu te rends compte que bah non, c'est pas lui en fait.
Mais grave, moi je pensais que c'était lui aussi pendant tout le début et tout, et puis bah, en fait non. Bon, cela dit, on n'était pas loin, hein.
Darlok. J'ai rien dit. Si tu cherches le nom du conseiller.
Ah non, mais de toute façon, j'aurais pas retrouvé, hein.
Et c'est No Attack, hein, pour Amon, son vrai nom.
Justement, merci.
En fait, t'arrives en fin de saison où t'as cet épisode flashback où t'apprends leur passé aux deux frères.
Ouais.
Ben, je trouve qu'il était, ben voilà, c'est là que tu dis, ah, ben voilà, là, c'est très bonne série parce que t'as des épisodes comme ça, quoi.
Oui, bah c'est ça. Puis moi, je trouve que c'était nécessaire aussi de t'expliquer, bah pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, enfin. Et puis le lien avec avec Tarlok quand même, parce que bon, pendant tout le truc, tu fais attends, il y a un lien, c'est pas possible, quoi.
Bah déjà, à la base, tu penses que c'est lui, quoi, au départ. Hein,
bah c'est ça. Ouais. Donc bon, pendant tout le temps, tu te dis attends, c'est lui, attends, il a une tête de méchant, c'est bon.
Oui, et puis son comportement fait que tu te dis oui, hein, il est quand même pas sympa hein, non plus. Donc bon, il a beau avoir la même voix que Jet dans Avatar, hein, il est pas sympa quand même. Hein.
Mm-mm.
Oui, ça c'est peut-être un petit. Voilà, on disait tout à l'heure bien des choses bien de là, mais bon, c'est vrai que c'est tu retrouves des voix de qu'est-ce qu'il fait là, c'est Jet quoi. C'est Wentworth Miller dans Prison Break quoi. Et bon, à part ça, voilà, tu fais ah mais en fait c'est un gentil et tout et ce qui m'a le plus choqué c'est la fin en fait de cette histoire quoi. C'est dans une série jeunesse, les deux gars se suicident en bateau. C'est hallucinant parce que enfin tu vois quand ils parlent tous les deux en s'éloignant donc Tarlok qui parle et tu vois que Noatak sait ce qu'il va faire enfin, du coup Amon il le sait et il l'arrête pas son frère en fait c'est j'ai trouvé que c'était super choquant surtout que t'enchaînes sur une scène complètement insouciante avec avec Korra et les autres donc tu fais ok il y a pas eu un problème là.
Oui, non, c'est
suicide, putain.
C'est oui, puis ça donnait l'impression, oui, bon, de toute façon, c'était méchant, c'est pas grave. Quoi.
Non, ça donnait l'impression, de toute façon, on n'aura pas de saison 2, on en a rien à foutre, on fait une super fin, quoi.
Aussi.
Et voilà. Mais donc, du coup, ce méchant Amon, t'as bien plu ou pas?
J'ai bien aimé parce que le côté égalitariste, je trouve, posait quand même un problème intéressant. Parce que, bon, depuis le début, même dans Avatar, ça a toujours été le côté la maîtrise, important et tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont pas tendance un peu à oublier bah, ceux qui n'ont pas de pouvoir, en fait.
Oui, voilà.
Tu vois
je pense qu'ils se rendent pas compte, les maîtres, l'avantage qu'ils ont par rapport aux humains normaux qui n'ont pas cette maîtrise.
Mmh.
Et ben, on peut retrouver un peu ce côté... j'ai envie de dire différence homme-femme en fait. Souvent une fois, les hommes se rendent pas compte des difficultés que peuvent avoir les femmes dans la vie de tous les jours à accéder au boulot, à l'égalité professionnelle, salariale et compagnie en fait. Mm-hmm. Pour moi, il y avait vraiment ce parallèle-là.
Bah c'est ça, c'était vraiment le côté. Posé. Mais oui, non, mais oh, mais faut arrêter de vous plaindre, pauvre à l'heure. En gros, bah ouais, mais en même temps, si vous étiez 5 minutes à leur place, peut-être que vous comprendriez. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant le fait que bah Amon finalement enlève les pouvoirs. Parce que du coup, bah, ils se retrouvaient au même stade que eux. Et là, ils réalisaient que, ah bah ouais, en fait, c'est pas sympa.
Mais enfin... en soi, c'est pas. J'ai pas envie de dire que c'est vraiment méchant de vouloir l'égalité entre tout le monde. Et là, mais c'est le fait de l'imposer de force et qui fait que plus avec le passif du personnage et de sa famille, tu dis oui, quelque part, ça tournera mal. D'autant plus qu'il retire les pouvoirs de façon complètement aléatoire. Enfin, il les retire à tout le monde. Alors qu'il y a des gens qui sont très bien et comme le chef Beifong qui a besoin des pouvoirs pour permettre de faire respecter la loi, tout simplement.
Oui, non, mais c'est justement ça que je trouve intéressant dans cette saison. Finalement, c'est que ça te montre les points de vue, les deux points de vue, et en même temps, je trouve que c'est quand même super bien traité parce que tu vois clairement qu'il traite ça de façon trop radicale, même s'il a pas totalement tort sur tous les points, enfin, tu vois, c'est...
Voilà. Son idée, le fond de voir l'égalité est bon, c'est la méthode pour y arriver qui est pas bonne.
C'est ça.
De la même manière que tu comprends que oui, c'est un méchant, mais c'est un méchant par le contexte, parce que son père a tout fait pour qu'il devienne un méchant, quoi.
Mmh,
il l'a traité de façon extrêmement cruelle. Donc il pouvait pas devenir autrement. Enfin, je veux dire, c'est quand même un père qui pousse ses deux enfants à se battre entre eux pour savoir lequel est le plus fort.
Ouais, non, mais là, leur père, il est juste immonde. Y a pas à dire. Tu vois clairement que, puis tu vois surtout que, enfin, c'est con, mais le grand, en fait, au départ, il fait tout pour protéger le plus petit. Donc, enfin, il est pas du tout mauvais, quoi. Il essaye juste de protéger son petit frère, en fait. Et c'est ça qui est finalement affreux. Tu te dis, à la base, c'était un bon gamin, quoi. Il avait un bon fond et tout, quoi. Donc,
Oui, voilà, c'est les circonstances qui font que t'arrives à ce point-là et c'est, il faut rappeler, encore une fois, on est dans une série jeunesse sur une chaîne jeunesse. Enfin, voilà, Nickelodeon, c'est la chaîne de Bob l'éponge.
Oui.
Non, Non mais c'est ça, quoi. Je veux dire, tu vois un programme comme ça, enfin une histoire comme ça dans Bob l'éponge.
Oui, ben oui, c'est oui.
C'est, voilà quoi, enfin bon, même si maintenant ils sont plus sur des séries comme les Thunderman, Henry Danger, Nick Ricky, Dicky Dawn, mais voilà, ça reste, c'est des séries live qui sont très très terre à terre avec du comique de situation et de quiproquo, quoi, enfin. Mais sinon, voilà, en dessin animé, c'est Bob l'éponge, ou les pingouins de Madagascar, ou Kung Fu Panda, ou les lapins crétins, tu vois, c'est eux qui les vivent dans les États-Unis. Et puis au milieu, bah, t'as Cora. Mais je peux comprendre que ça faisait un choc aux téléspectateurs.
Bah, c'est un peu le, mais vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé de chaîne?
Bah, c'est un peu comme Star Wars, ou Rebels, ou Clone Wars, quoi, enfin, sur Disney XD, quand tu regardes les séries autour, quoique Disney XD, quand même, il y a du fond quand tu vois certaines séries comme Gravity Falls, mais quand même, ça fait un choc, quoi. Enfin, t'as quand même un jeune qui a tué son père, qui termine la saison sur un suicide. Bah, t'as quand même les deux meilleurs amis de Cora, là, Mako et Bolin, qui sont quand même orphelins et SDF.
Mais clairement, tu vois clairement que ça touche à des thèmes quand même assez sombres au final. Donc, puis bon, il y a un vrai fond aussi. Donc.
Et d'un autre côté, je me dis, c'est bien joué parce que. Tu regardais Avatar, t'avais 8-10 ans, ça se passe dans la diffusion 5 ou 6 ans après, donc t'es adolescent. Tu veux des thèmes plus matures aussi. Donc je trouve que ça suit bien finalement le public qui avait regardé Avatar au début, quoi. Mm. Et le public a grandi, il a des autres attentes dans les séries, et donc il propose autre chose, et c'est très bien. Et ça se voit aussi au travers de Asami... alors que quand elle arrive, tu te dis oui, c'est la petite fille bourgeoise et tout, mais tu vois que c'est quelqu'un qui est qui demande justement à faire une rencontre pour pouvoir être libre de cet héritage de petite Paris Hilton, quoi, finalement.
Bon, après
Cora, Mako et Bolin, justement, elle la trouve cette bande qui peut la faire sortir et devenir libre. Mm-mm. La pauvre, elle est riche. Oh, quel malheur.
Non, mais bon, après c'est aussi c'est bon, une riche, intelligente comme tu dis, cultivée, elle a tout ce que tu veux, mais par contre elle a sa mère qui est morte très tôt aussi, donc tu vois.
Et justement, par rapport à la question de l'égalitarisme, je trouve que c'est très bien joué parce que son père, voilà, il est extrêmement riche, sa fille a eu accès à tout, à la culture et tout, voilà, c'est une super sportive, elle est intelligente, elle sait tout bricoler, elle est riche. D'où elle a pourtant elle a pas de maîtrise, mais d'où elle est égale à celui qui se balade dans la rue, à Mako ou à Bolin par exemple. Donc même si tout le monde était humain, il y aurait quand même des inégalités. Et je trouve que finalement c'est bien joué d'avoir fait de son père un membre de l'armée égalitariste, quoi.
Oui, ah oui, sur ce coup-là, oui.
Et après bon on y reviendra en saison 4, mais l'évolution de la relation entre elle et son père est juste aussi extrêmement bien gérée. Parce que tu sens tout le dilemme de Asami qui veut qui sait que son père fait quelque chose de mal, mais c'est son père, quoi. Comme tu dis, elle a déjà perdu sa mère, et si elle trahit son père, elle perd son père également, quoi. Donc, elle se retrouve sans rien.
Ben oui, non, c'est clair.
Donc, il y a vraiment ce dilemme, et j'ai trouvé que c'était bien joué, parce que tu le sens au travers du personnage qu'elle sait pas quoi faire et qu'elle hésite et que...
Ah bah tu vois clairement que quand Cora, parce que bon, c'est quand même la première à s'en rendre compte et à l'accuser direct, tu vois clairement au départ que pour elle, c'est même pas plausible, c'est pas imaginable. Enfin, pour elle, c'est n'importe quoi. Tant qu'elle le voit pas finalement de ses propres yeux, elle veut pas croire que son père puisse être avec Amon, quoi.
Bah, si quelqu'un viendrait te dire « ton père, c'est un gros salaud », tu le croirais pas non plus.
Bah non, c'est ça. Il faut que tu le vois de tes propres yeux. Donc c'est vrai que le dilemme est super bien joué. Et surtout, tu peux t'attendre à tant ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va se retourner contre eux, aller rejoindre son père et tout, parce que bon, au final... Tu te dis, on sait jamais,
les deux
quoi.
Les deux côtés sont possibles. Parce que le personnage est bien construit, justement.
C'est ça. Et surtout que bon, il a quand même des raisons. Il lui explique, il fait, mais ta mère, elle a été tuée par des maîtres, etc. Donc c'est vrai que, pour lui, c'est de la vengeance pure, en fait. Enfin. Donc bon, tu peux comprendre, finalement, c'est la tristesse qui le pousse à agir comme ça aussi.
Mmh. Oui, c'est super bien écrit, super bien géré, et t'as une excellente première saison au final. Enfin, pour moi, c'est un peu poussif dans le sens que les 3-4 premiers épisodes où elle débarque, elle découvre la Ligue des Maîtres et tout ça, Ouais, tu te dis un peu où on va, mais il y a quand même déjà tout ce qui est sous-jacent derrière, et puis ça permet de souder la team Korra, quoi, finalement.
Bah, c'est ça, moi je trouve que ça met bien en place les personnages, enfin voilà, tu découvres quand même assez rapidement qu'ils sont Bolin, qui sont, voilà, Bolin et Mako, enfin, là, finalement ils deviennent amis quand même rapidement, et bizarrement, bah, c'est, moi je trouve que ça t'aide à t'attacher super vite aux personnages, quoi. C'est là où pour moi ils sont super bien écrits dès le début, parce que bon, tu pour au départ tu veux te dire ouais c'est qui, enfin, c'est,
ouais. Ouais, mais quand tu regardes au début un épisode par semaine, bah tu t'arrives aux 4 ou 5, tu te dis il faudrait peut-être quand même que ça démarre, il y a que 12 épisodes hein les gars. Et finalement quand tu quand t'arrives au bout de la saison, tu te rends compte oui c'est des épisodes qui sont nécessaires quoi, donc la façon dont c'est traité, c'est bien construit et bah là pour le coup oui les premiers épisodes méritent à être vus à la suite quoi en fait.
Oui.
Et voilà.
Mais et puis bah, c'est surtout et puis bon tu sais pareil on aurait pu dire bon on aurait pu passer très vite à son apprentissage de l'air, mais en fait quand tu réalises que c'est justement parce qu'elle n'a pas appris à maîtriser l'air qu'elle s'en sort à la fin, puisque oui. Quand Amon lui enlève du coup sa maîtrise, pouvoir, voilà. Il lui enlève la maîtrise de tout sauf de l'air vu qu'elle la maîtrisait pas encore. Finalement bah tu dis ça c'était super bien géré en fait. Il fallait qu'elle apprenne qu'elle soit pas maître de l'air justement voilà. Pour pouvoir l'acquérir après. Et finalement se sauver quoi.
Et puis ça pose des bonnes bases sur le personnage de Tenzin aussi, parce que c'est quand même le sage de la cité de la République, c'est le maître de l'air qui maîtrise l'air, voilà, bon bah il a quand même bien appris à ses enfants et tout, mais sauf qu'il n'arrive pas à transmettre à Korra comment on maîtrise l'air, il est complètement perdu et c'est une thématique qu'on va retrouver dans les saisons suivantes quoi finalement autour de Tenzin, bah il s'est tout simplement pas enseigné.
Non, mais c'est un très, enfin, pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon personnage, parce que tu vois, oui, c'est le dernier maître de l'air, mais en fait, tu réalises qu'il y a eu toute une pression sur lui. Elle a tellement voulu en faire le dernier maître de l'air, tu vois, t'es le dernier, faut que tu fasses ci, ça, 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 ça.
C'est le fils de l'avatar,
le seul qui maîtrise l'air, tu vois, donc automatiquement, il a énormément de pression, et c'est vrai que pour lui, ne pas réussir à faire finalement, ce qu'il est censé faire, c'est horrible.
Voilà.
Du coup.
Puis de toute façon, c'est le meilleur personnage parce qu'il a la voix française de Scott Bakula, donc. Et Kit de K2000.
Aussi.
Non mais franchement, il a trop de bol ce comédien, quoi. Il a tous les meilleurs rôles.
Non mais vraiment, pour le coup, c'était un très très bon personnage.
Et tous les personnages, finalement, il n'y a pas de défaut. À part, tu te dis peut-être autour du chef Beifong, tu dis, oui, elle est un peu chiante, celle-là, parce que finalement, quand elle arrive, elle fait un peu caricature de la chef de police, quoi, tu sais. C'est ma vie, c'est moi qui dirige, il faut que tout...
Ah non, moi, je l'ai vraiment aimée, parce que, je suis désolée, mais c'est la fille de Toff, quoi. Souviens-toi de Toff, elle a quand même un caractère pourri, quoi.
Ouais, mais tu vois, sur ces deux, trois premières apparitions, la première fois où elle est là... Que Korra est toute fière parce qu'elle a arrêté les méchants de la triade là, tu sais, dans la boutique au tout premier épisode. Mais je suis l'avatar, j'ai arrêté des méchants. Puis qu'elle lui balance, ouais, mais t'as vu le bordel que t'as foutu en faisant cette arrestation, quoi. T'as détruit 3 boutiques, bousillé la rue. Je sais pas, elle paraissait méchante, mais très vite, voilà, elle reconnaît l'avatar quand il y a l'attaque en milieu de saison, justement sur l'arène de la Ligue des Maîtres. Où elle est prête à se sacrifier pour aider Korra, quoi, tu vois, c'est deux personnages qui ont besoin de montrer leur capacité pour que l'autre le respecte, quoi, en fait. Et je trouve que c'est bien joué, et après, la continuation dans les saisons font que c'est un personnage formidable quand t'arrives au bout. Mm-hmm. Et tous les personnages sont formidables.
Ok, Nico, sont formidables, oui.
Non, ils sont formidables. Allez, je le sors.
Nico vient de nous inventer un mot, c'est intéressant.
Mais voilà, il y a pas de personnage qui a de défaut, quoi. Même les gamins de Tenzin, quoi, ils sont.
Ah non, ils sont excellents.
Bah, quoi que au sortir de la saison 1, t'as deux filles qui te demandent à quoi elles servent, et le troisième, à part le petit gamin, à part péter,
ils sont drôles. Tu les connais pas encore dans la saison, tu les vois vite fait, c'est vrai, donc, mais et après, ils sont fun. en fait, t'as l'impression de voir un mini Hang, vraiment.
Mais c'est pas le fils de l'air, regardez.
c'est un garçon, quoi.
Oui, et puis bon, il faut dire qu'il est très jeune, je sais pas quel âge il doit avoir,
Je pense qu'ils sont tout petits, dans la saison 1.
D'après Wikipédia, il aurait 5 ans.
Voilà, donc c'est là, donc c'est l'âge de faire ce genre de blague, quoi. Tu vois.
Mais voilà, bah après, en comparaison avec Jinora et Ikki, bah, elles sont un peu translucides dans la saison 1, quoi, donc.
Transparentes?
Oui, mais, non, mais transparentes, on les verrait pas du tout. On les voit quand même un petit peu. On sent qu'il y a quelque chose avec ces deux personnages qui peuvent être faits. Donc c'est pour ça, translucides. C'est-à-dire que tu les devines, quand même. Oui, j'essaie de me rattraper.
C'est ça. Ram.
Bon. Je crois qu'on va faire une pause, je vais aller faire une sieste, et puis on reprend dans 2 heures.
Bref. Oui, donc.
Donc, voilà. Et on arrive à la fin de la saison. Eh ben, Avatar. Avatar est devenu totalement Korra.
Oui, donc Korra est Avatar, elle a toute la maîtrise, des 4 éléments.
Le méchant, ben ça y est, il s'est fait exploser. Donc finalement, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'ils ont conçu cette première saison comme une saison unique. Hein. Je pense qu'au niveau
de la... Ah mais c'est pas une impression, c'était vraiment voulu. Hein. Ça devait être une mini-série.
Voilà, sauf qu'il y avait eu du succès.
Voilà.
Et donc on arrive à la saison 2, et ben il faut démarrer la saison 2, donc avec... une super avatar, je suis Korra, je maîtrise, je suis super balèze et tout, et puis donc du coup, ben, elle se retrouve avec les problèmes familiaux autour de son père et son oncle, donc chacun chef d'une tribu de l'eau, et donc l'affrontement entre les deux qui conduit son oncle à vouloir les super pouvoirs pour maîtriser le monde, quoi.
Oui.
Tu vas pas dire que Unalaq, c'est quand même le personnage le plus subtil.
Ah mais non, alors là, c'est-à-dire que dès les premiers mots,
il veut devenir l'avatar, le mauvais avatar, quoi. Lui, il dit,
oui.
Oh, c'est bon, on a fait 1000 ans de bien, maintenant on va faire 1000 ans de mal, parce que c'est moi qui serai l'avatar du mal, quoi.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce personnage, parce que c'est-à-dire que dès sa première apparition, j'ai fait, mais comment elle peut gober ce qu'il raconte, c'est-à-dire que c'est évident qu'il a un plan secret qui est pas du tout sympa, quoi. Enfin.
Oui, mais d'un autre côté, tu peux comprendre. Korra est pressée, en fait. Déjà en saison 1, tu l'as posée comme pressée. Je veux dire, la première scène, elle doit avoir quoi, 6 ou 7 ans. Ouais, regardez, je suis super fort, je maîtrise les 3 pouvoirs et tout. Voilà, tu démarres après quand elle devient à son âge final de la série, quoi. Je veux maîtriser l'air. Oui, mais attends, t'es pas encore prête. Attends encore un peu. Rien à foutre. Je pars à la Cité de la République toute seule, quoi. Tu vois.
Oui.
Et là, il arrive et lui dit, écoute, je vais t'apprendre à parler avec les esprits, contrôler les esprits, etc.
Ouais.
Donc forcément, elle y va, hein, elle fonce. Hein,
C'est vrai que c'est. Elle a ce petit côté. Je sais pas comment dire.
Je fonce et je réfléchis après.
Elle a ce côté, je m'en fous, je veux tout de suite ce que je veux, en fait. Un peu gâté pourri, quoi.
D'un autre côté, t'es l'avatar, t'as été traité différemment depuis ton plus jeune âge, donc, tu peux comprendre que, ouais, tout lui est dû, entre guillemets.
Ouais, c'est pas faux.
Et puis elle est pressée, quoi, elle veut tout, voilà, mais je peux comprendre aussi, hein, pendant 10 ans, à se faire chier, à faire des katas, là pour maîtriser le feu, l'eau et tout ça, et combattre des mecs tout pourris dans les temples, je peux comprendre que t'as envie de passer à autre chose. Et lui, voilà, finalement, quelque part, il lui propose ça, mais après, c'est vrai qu'il est tellement subtil, ce personnage. Je pense que c'est le personnage qui a été le plus mal écrit de toute la série, en fait. Parce qu'il a absolument pas une once de subtilité dans son comportement et...
Mais c'est ça, si au moins t'avais un espèce de choix, enfin, je sais pas s'il avait fait ça pour des bonnes raisons, malgré tout, tu vois, s'il y avait un vrai fond. Mais en fait, non, à la fin, tu réalises que c'est juste un enfoiré, quoi. Enfin, ouais, ok. Le gars, il voulait juste le pouvoir depuis toujours. Ça a toujours été un enfoiré. Même avec son frère, dès le départ. C'est ok. Bon.
Voilà. S'ils avaient plus peut-être développé le côté « je suis jaloux parce que c'est pas mes jumeaux qui sont devenus... » Enfin, voilà, c'est quand même son frère qui a donné naissance au nouvel avatar.
Oui.
Je pense qu'il aurait aimé que ça soit un des deux jumeaux qui soit l'avatar et qui aurait justement, il aurait pu... les contrôler de derrière, tu vois, comment dire, le faire grandir dans l'idée, de le contrôler dans l'ombre, on va dire.
Oui.
Sauf que Desna et Eska, voilà, quoi, je veux dire.
Non, mais on est d'accord que c'est pas possible, quoi. Enfin.
Mais ils sont fun.
Oui, je dirais que elle est fun, lui il est transparent. Translucide. Enfin, voilà. Il sert à rien, quoi.
C'est un peu l'Haïti du coin, quoi. Parce que même avec du développement, ouais, mais bon, tu serais pas là, ça changerait pas grand chose, hein.
C'est ça. Enfin, pendant tout le truc, j'ai fait, ouais, enfin, heureusement que t'es le jumeau de Desna, quoi, parce qu'en fait, tu sers à rien, quoi. Enfin.
Ouais, alors que justement, bah, du côté de la famille de Tenzin, bah, voilà, Jinora, ça y est, c'est bon, ça y est. Elle a ses instants de gloire, quoi, qui commence dans cette saison 2.
Bah oui, parce qu'en fait, on découvre que, bah, que c'est elle qui était destinée, finalement,
à guider l'avatar.
À guider l'avatar dans le monde des esprits, hein, que ça a jamais été Tenzin, que c'était sa fille, en fait.
Oui, et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Tenzin, c'est ultra cruel pour lui, parce que, bah voilà, c'est, il a vécu pour ça, quoi, pour être le lien, la transmission entre Aang et Korra, et en fait, non. Non, c'est ta fille.
Oui, non, franchement, c'était dur pour lui. Par contre, moi, ce que j'ai adoré cette saison, c'est que ça permet aussi, finalement, de revoir les frères et sœurs de Tenzin. Parce que bon, depuis le début, voilà, tu sais, tu les vois 3 secondes dans la saison 1, je crois, où voilà, ils disent, bon, bah, ils sont 3, machin, et tout.
Bah, Katara et la famille, quoi.
Voilà, si tu veux. Et du coup, tu les vois pas, et à partir de la saison 2, tu vois beaucoup plus Kya et Bumi, et franchement, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, j'adore le personnage de Bumi, quoi. Il est complètement taré, ce gars.
Oui, mais après ça dépend. Le problème c'est qu'il faut bien l'écrire. Il y a certains épisodes, il est lourd. Il y a des épisodes, il est génial.
Oui.
Il y a quand même 2 ou 3 épisodes où il est un peu lourd dans son comportement justement. Vas-y, c'est bon. T'as 60 balais. Calme-toi. Et puis en plus, bon, voilà, le problème c'est un peu la voix française, quoi. C'est j'ai rien contre son comédien, mais c'est un comédien qui a un peu tendance à en faire beaucoup et voilà, de temps en temps, il en fait peut-être un peu trop, je sais pas, ça me perturbe un peu, mais
j'avoue.
Voilà, bon, après, voilà, c'est lui qui fait, par exemple, la nouvelle voix de Tortue Géniale, quoi, depuis Dragon Ball Kai. Donc, voilà, et il fait les voix aussi de tout. Bah, finalement, il a repris ce que le comédien faisait avant de Tortue Géniale. Donc, tous les vieux, en fait, de Dragon Ball, il fait. Et il est sur le vieux maître Kaio, voilà, il lui met des « vous voyez », comme il faisait dans South Park. Non, c'est pas pire que South Park, calme-toi.
Ouais, non, puis surtout, c'est pas le style de Caillou, quoi.
Voilà, non, mais du coup, j'avais peur quand j'ai commencé à entendre sa voix. J'ai fait « non, hein, qu'il part pas dans des délires comme ça ». Puis finalement, il reste sobre, le comédien, donc ça passe. Tu vois, je pense qu'il est mieux dirigé. Non, mais t'en rajoutes pas, mon gars, calme-toi.
c'est déjà un personnage qui est fort en haut en couleur, c'est pas la peine d'en rajouter, hein.
Mais après, c'est vrai que finalement, par rapport à son développement sur les 4 saisons, tu te rends compte que c'est un personnage qui en fait tellement parce que, ben, il maîtrise pas, il a pas de maîtrise, lui. Contrairement à son frère et sa sœur. Ben, au début, hein, je parle. Il maîtrise ni l'air, ni l'eau, donc, quelque part, il est le fils de l'avatar, et il a pas de maîtrise. Donc, ben, pour se faire remarquer, ben, il en fait plus que les autres, quoi.
C'est sûr.
Donc, ça peut expliquer, mais après, c'est dommage qu'on n'ait pas plus assisté sur son côté que c'est devenu un grand général de l'armée aussi.
Tu rigoles, attends, à chaque fois qu'il dit « Oui, alors moi, en tant que général, n'est-ce pas ?»
Ouais, mais tu sais, il fait un peu le côté ancien combattant qui a plus subi les événements parce qu'il était un troufion de l'armée que le chef qui a dirigé, tu vois, c'est ça que je veux dire.
Il manque
peut-être un peu cette dimension. T'as l'impression toujours que c'est un mec qui raconte un peu plus que ce qui s'est vraiment passé, donc qui croit pas trop non plus à ses histoires, mais ça fait un peu partie de son charme, quoi. C'est un peu l'oncle foufou que t'as dans soirée familiale, quoi.
Bah, c'est ça. Enfin, moi, c'est ça qui m'éclate avec lui, quoi.
Ouais, et voilà. Et donc, t'arrives à la fin de la saison 2, bon, bah, t'as le super combat entre les deux esprits de l'avatar de lumière et l'avatar sombre. Oui, bon, bah, ça permet de développer le côté avatar. Mais c'est pas formidable, quoi, le super combat de géants dans la baie de la Cité de la République. Ouais, pourquoi pas.
Oh, bah c'est bah,
J'ai trouvé que c'était nettement mieux dans le double épisode sur l'avatar One. Bonjour la subtilité. Je suis le premier avatar, je m'appelle One.
Mais ça s'écrit pas pareil, attends. Mais non, moi j'ai trouvé, alors pour le coup, ce double épisode, je l'ai trouvé génial, quoi.
Il est magnifique.
Le fait d'apprendre comment, finalement, le tout premier avatar, enfin, j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. C'est trop bien. C'est trop trop bien, et il y a tout qui prend un sens, quoi. Enfin, c'est waouh.
Puis l'équilibre insiste sur le fait, bah oui, si t'as le bien, t'as le mal également. Hein. T'as le jour, t'as la nuit, t'as le bien, t'as le mal, quoi. Donc, mais surtout même en deux épisodes, le développement du personnage qui est juste une petite racaille qui survit en faisant des petits coups comme ça, à droite à gauche, devient l'être le plus sage du monde, quoi.
Là, c'est ça.
C'est justement parce qu'il fait des erreurs, il apprend de ses erreurs, il est tout seul. Bah, tu sais, c'est magnifique, quoi. Puis même le style graphique qui est utilisé est différent du reste de la série et
ça, ça et puis bon, c'est tout, c'était un tout, le fait de voir, voilà, qu'en fait tout le monde à l'époque vivait sur des carabasses de tortues lion, enfin tu vois la différence de tout ce que les finalement 10 000 ans d'Avatar ont apporté au monde, quoi. C'est non, j'ai trouvé que c'était super, quoi, pour le coup, de faire vraiment les origines de l'Avatar. Ça, c'était une bonne idée.
Oui. Mais c'est, puis ça permet de justifier après tout le délire autour de Unalaq, bah, qui veut être l'avatar sombre, mais oui, enfin voilà, donc ça, c'est vraiment à partir de là, et c'est quand même le 7e épisode de la saison 2, quoi, c'est vraiment la saison 2 démarre à partir, pour moi, c'est vrai que c'est la saison la plus faible, parce que tu sens qu'ils avaient conçu la série comme une mini-série, et que, bah, finalement, on nous relance, donc il a fallu relancer la série.
Non, mais je suis d'accord,
un peu
parce que...
comme au début de la saison 9 de Stargate, tu vois, de Stargate SG1, il faut relancer la série, donc c'est un peu poussif.
Mais je suis d'accord avec toi, parce que finalement, la saison 1, je l'avais regardée assez vite, et je me suis bloquée sur la saison 2. J'avais vachement moins envie d'enchaîner au début, donc du coup, j'ai mis beaucoup plus de temps à regarder la saison 2 que les autres, quoi. Enfin, c'est... T'as dû le remarquer, hein, je suis restée super longtemps bloquée sur la saison 2, quoi. Enfin,
oui, bon, après, t'avais tellement de trucs à regarder aussi à côté que...
Aussi, mais tu vois, j'ai quand même enchaîné les saisons 3 et 4 beaucoup plus vite après, même la saison 1, je l'avais quand même enchaîné plus vite que la saison 2. J'ai eu beaucoup plus de mal avec celle-là, déjà parce que j'aimais pas le méchant, Unalaq, enfin, pour moi, n'est pas un bon méchant. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai beaucoup de mal avec les nouveaux personnages de cette saison, donc, et c'est comme tu dis, hein, c'est vraiment à partir du double épisode, finalement, des origines que la saison 2 devient vraiment bonne, quoi.
Ouais, bah, je pense qu'il aura fallu le temps de se mettre en place et de savoir quoi faire, et puis là, tu sens que, à partir de la saison 2, ils ont conçu la série sur les 3 saisons, quoi, en fait. Saison 2, 3 et 4, parce que ça s'enchaîne beaucoup mieux derrière, puisque donc, bah, tu peux dire, voilà, la saison 2, consacre, c'est la progression de l'Avatar jusqu'à son sommet. La saison 3, je suis la meilleure du monde, mais du coup, elle se fait défoncer la gueule. Et la saison 4, c'est la reconstruction pour arriver. C'est un schéma classique. Tu apprends, tu deviens super fort, tu te la pètes, mais quelque chose fait que tu es défoncé la gueule, tu tombes au fond du trou et tu remontes pour être meilleur que ce que t'étais, quoi, en fait.
Oui, bah oui.
Et donc, et tu vois ce schéma en 4 saisons qui se dessine à partir de la saison 2, et donc t'enchaînes sur la saison 3.
Une saison 3 et une saison 4 que nous analyserons dans la seconde partie de ce mini-pod. Merci, bientôt, au revoir, tchou tchou.